Nous allons lire ce matin trois textes, et de façon très très traditionnelle, ce n'est pas mon habitude, mais on va lire un texte d'Ancien Testament, un texte d'Épître et un texte d'Évangile. Mais c'est une longue tradition de lecture dans l'Église d'avoir ces trois lectures-là, mais ce n'est pas pour être traditionnel, vous allez voir. Et on commence par Genèse 2, quelques passages, quelques versets de Genèse 2 et quelques versets de Genèse 3.
Le Seigneur Dieu prit l'humain et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Le Seigneur Dieu ordonna à l'humain : Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bonheur et du malheur, car le jour où tu en mangeras, de mort tu mourras. Le serpent était le plus avisé de tous les animaux de la campagne que le Seigneur Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Vraiment, Dieu a-t-il dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» La femme dit au serpent, « Nous pouvons manger du fruit des arbres du jardin. » Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, Vous n'en mangerez pas, vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. » Alors le serpent dit à la femme, « Pas du tout, vous ne mourrez pas, car Dieu le sait, le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et vous serez comme des dieux, connaissant ce qui est bon ou mauvais. »
Merci beaucoup. Et puis un texte de la lettre aux Galates.
Au chapitre 5, verset 13. « Mes frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement que cette liberté ne devienne pas un prétexte pour la chair. Par amour, faites-vous plutôt serviteurs les uns des autres. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, celle-ci. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez, si vous vous dévorez les uns les autres, prenez garde de ne pas être détruits les uns par les autres. »
Merci. Puis un texte du Sermon sur la montagne.
Matthieu 6, versets 25 à 34. Ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez ou de ce que vous boirez, ni pour votre corps, de ce que vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment pas, ils ne moissonnent pas, ils ne recueillent rien dans des granges et votre Père Céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous peut, par ses inquiétudes, rallonger tant soit peu la durée de sa vie? Ne vous inquiétez donc pas en disant « Qu'allons-nous manger ?» ou bien « Qu'allons-nous boire ?» ou bien « De quoi allons-nous nous vêtir ?» Tout cela, c'est ce que les gens de toutes les nations recherchent sans relâche, car votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez d'abord le règne de Dieu et sa justice, et tout cela vous sera donné par surcroît. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain s'inquiétera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine.
Frères et sœurs, il ne se passe pas une semaine sans que les médias n'évoquent les effets délétères présent et à venir, de la crise écologique dans laquelle nous sommes entrés, en nous rappelant les limites de notre terre unique. Et puis, dans le même temps, ces mêmes médias, à peu près au même rythme, s'enthousiasment des promesses et des fantasmes d'une technique qui offrirait bientôt le déplacement de toute limite humaine, la possibilité de la colonisation d'autres planètes au cas où la nôtre deviendrait invivable, et même finalement avec le transhumanisme, la mort de la mort, la victoire sur la mort. Ce rêve prométhéen de la fin de la mort est, nous allons le voir tout à l'heure, bien autre chose que la victoire sur la mort que nous avons fêtée à Pâques. Au milieu de tous ces fantasmes technologiques, la crise écologique que nous vivons est une crise de la limite, une crise de la manifestation inexorable de la limite. Cette question centrale pour l'existence humaine et dans le quotidien de nos vies, cette question, eh bien, elle est déjà abordée dans les textes bibliques. Car nos vies, dans nos vies, le rapport à la limite, c'est une question qui n'est pas uniquement une question matérielle ou technique. C'est aussi une question spirituelle, une question ultimement qui ultimement nous place devant Dieu et devant nous-mêmes. Une question spirituelle d'abord avant d'être une question technique. Dans le premier texte que nous avons lu, celui de la Genèse, en trois versets seulement, sont posées les conditions de l'existence humaine dans le jardin qui a été préparé pour l'humanité sur la terre. Alors est-il besoin, en disant cela, de préciser tout de suite que le texte de la Genèse ne nous parle bien sûr pas de paléontologie ni de préhistoire, mais qu'il s'agit d'une réflexion sur l'existence humaine, sur notre terre, à l'époque des auteurs et des destinataires de ces textes, comme à notre époque aujourd'hui. En trois versets, donc, sont signalés, signifiés la vocation humaine, cultiver et protéger son lieu d'existence, et ce qu'en retour, le jardin offrira généreusement aux humains pour leur nourriture, pour leur vie. Vous noterez d'ailleurs au passage que le travail n'est pas absent d'Éden, puisqu'on commence par cultiver le jardin. Mais ce n'est pas notre sujet aujourd'hui. Voilà donc pour les conditions pratiques. Mais à ces conditions pratiques vient s'ajouter une condition, je dirais, plus psychologique ou plus spirituelle, celle de l'interdit portant sur la consommation d'un seul de tous les arbres du jardin. Cet arbre, on l'apprend par les versets qui précèdent, partage avec les autres arbres du jardin d'être agréable à voir et bon pour la nourriture. De ce point de vue-là, il est absolument comme les autres. Cet arbre est le seul à être interdit de consommation, alors même qu'on nous dit qu'il est beau à regarder et utile pour la nourriture. Il y a donc une limite qui a priori semble un peu absurde. Pourquoi cet arbre-là et pas un autre? De façon tout à fait intéressante, dans le même verset, la limite de la mort fait justement son apparition. En même temps qu'on pose l'interdit de l'arbre, il est dit « si jamais tu transgresses cette limite, alors tu mourras ». Notez que la perspective de la mort est aussi dans Éden dès le début et pas seulement à la fin. L'arbre interdit, eh bien, il n'est pas seulement celui de la connaissance tout court, comme si Dieu voulait enfermer les humains dans l'ignorance. Non, cet arbre est en fait qualifié comme étant littéralement, si on traduit au plus près de l'hébreu, l'arbre de l'expérimentation du bonheur et du malheur. Il ne s'agit donc pas de la connaissance intellectuelle du bien et du mal dans l'absolu, ni de la connaissance des concepts moraux du bien et du mal. Non, il s'agit formellement d'une expérience vraiment tout à fait pratique de ce qui fait du bien ou de ce qui fait du mal. On peut toujours théoriser très longuement, philosopher sur le bien et le mal. Il y a des avis différents, mais personnellement, ce qui nous fait du bien et ce qui nous fait du mal, ça, on le sait le reconnaître tout de suite sans réfléchir. Voilà une idée, d'ailleurs, qui rompt avec la compréhension traditionnelle qui voit dans la vie en Éden une vie dans le bonheur. Tant qu'ils n'ont pas consommé de l'arbre de l'expérimentation du bonheur et du malheur, ils ne sont ni malheureux, ni heureux. Ils sont dans une sorte d'inconscience, peut-être de préhumanisation. Mais revenons à notre arbre. Qu'est-ce qui le qualifie comme celui de l'expérimentation du bonheur et du malheur? Est-ce qu'il s'agit d'une espèce particulière ? On a vu que non. Est-ce que ce ne serait pas l'interdit même de Dieu qui le qualifie ainsi ? Ou encore, n'est-ce pas parce que l'interdit dont est marqué cet arbre, par sa seule présence, même si elle est minoritaire par rapport à tous les arbres du jardin, cet interdit-là empêche de manger de tous les arbres du jardin, puisqu'il y a une exception. Finalement, est-ce que le problème de cet interdit, c'est que ce n'est pas lui qui va empêcher qu'on puisse tout faire ? En empêchant une seule chose, on empêche de tout faire. C'est en tout cas ce que feint d'avoir compris le serpent. Qu'en s'adressant à la femme, il lui demande « Vraiment ? Dieu a-t-il réellement dit « Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» Alors là, la femme s'empresse évidemment de corriger. Non. Dieu a seulement dit « Le fruit de l'arbre du milieu du jardin est interdit. » Dieu a dit « Vous n'en mangerez pas et vous n'y toucherez pas. » On voit là que le mal est déjà fait. Ce n'est pas la peine de lire la suite de l'histoire. Le mal est déjà fait là. Alors pourquoi me direz-vous ? Parce que cet arbre, qui était un arbre parmi d'autres dans le jardin, est devenu pour Ève l'arbre du milieu. Si vous lisez un peu avant, vous vous rendrez compte que ce n'était pas cet arbre-là qui était au milieu. C'était l'arbre de la vie. D'un seul coup, dans l'imaginaire d'Ève, cet arbre devient central. Et puis vous noterez que, alors que Dieu a seulement dit « Vous n'en mangerez pas », elle ajoute « Vous n'y toucherez pas ». On voit que, au travers de l'interdit divin qui portait sur la consommation du fruit, et puis de la question un petit peu insidieuse, je vous le concède, du serpent, d'un seul coup, Ève commence à focaliser sur cet arbre-là. Et c'est ça qui va le rendre spécialement désirable, parce que tous les autres sont désirables et bons à manger. Mais le fait qu'il soit le seul qui soit interdit, eh bien, va le rendre désirable plus que tous les autres. Que la transgression de l'interdit, le franchissement de la limite, devienne une question de vie ou de mort, montre bien que le rapport à la limite est dans nos vies aussi une question de vie ou de mort. D'ailleurs, dans le récit, Dieu dit « Si tu en manges, tu mourras ». Et de son côté, le serpent dit « Non, si tu en manges, tu ne mourras pas. Tu deviendras comme des dieux, vous deviendrez comme des dieux, c'est-à-dire sans limite, connaissant tout, maîtrisant tout, peut-être même la mort. » Or, la suite de l'histoire, vous le savez, raconte avec ironie que la première découverte apportée à l'homme et à la femme par la transgression de l'interdit, le franchissement de la limite, c'est la connaissance de leur finitude, figurée par leur nudité. Une nudité fragilité qui est précisément ce à quoi ils voulaient échapper. Finalement, l'inévitable mort ne leur en est que plus odieuse, plus scandaleuse. C'est ce qui amène Jean-Pierre Molina, un collègue pasteur et dessinateur et animateur biblique, à traduire ce « de mort tu mourras » qui est une formulation hébreu un peu bizarre par « tu en crèveras de devoir mourir ». Donc là, il respecte l'hébreu, il y a une répétition du mot mourir, hein, mourir, crever. Mais ce n'est pas tu vas mourir, c'est tu en... mourir, de toute façon, n'importe quel vivant meurt. Mais il te le deviendra odieux de mourir. Non seulement tu mourras à la fin, mais tu vas en mourir de savoir que tu vas mourir. Et c'est un changement un petit peu de perspective, parce que finalement, c'est la connaissance de cette limite indépassable qui devient odieuse. De nouveau, cette limite indépassable. La suite du récit va nous montrer comment cette prise de conscience dramatique va provoquer la dégradation des relations entre hommes et femmes, ces relations qui sont perverties en rapport de domination, comment les rapports entre frères et entre les hommes deviennent conflictuels jusqu'à la mort, dès les chapitres suivants et dans toute l'histoire humaine. Alors on a aussi entendu un écho de cela dans le bref passage de la lettre aux Galates que nous avons lue tout à l'heure, quand Paul décrit ces rapports pervertis entre les humains d'une façon quasi anthropophage, puisque ces rapports sont pervertis en dévoration mutuelle. Prenez garde, si vous vous mordez, si vous vous dévorez les uns les autres, prenez garde de ne pas être détruits les uns par les autres. C'est intéressant, dans nos trois textes, l'idée du manger se retrouve. Vous me direz, c'est pour ça que je les ai choisis. Oui, bien sûr. qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé? La condition qui est la nôtre, de créature limitée, qui au début du récit d'Éden était vécue sans honte, parce que non connue, en dehors de la conscience, cette condition devient un sujet de honte et même un sujet de peur quand les humains tentent d'y échapper. Finalement, par ces insinuations ambiguës mais exactes, le serpent a permis à l'homme et à la femme de transgresser la limite. C'est bien que s'ils ont pu le faire, c'est qu'ils avaient en eux le germe de la transgression. Finalement, le serpent va jouer dans cette histoire le rôle d'un révélateur. Il va révéler ce qui est au cœur de l'être humain. En ce sens, si on veut voir absolument dans cet épisode le récit du péché originel, deux termes qui sont complètement absents de Genèse 2-3, il faut alors pas comprendre cette expression de façon chronologique ni morale, mais comme désignant ce qui est dans la nature de chaque être humain. Vous savez, quand vous allez changer des pièces dans votre voiture, vous cherchez des pièces d'origine. Hein, je dirais que ce problème, il est originel dans le sens, il est d'origine, à savoir dans la nature même de l'être humain, que nous sommes, de tous les Ève et les Adam que nous sommes, des êtres humains qui avaient du mal, un problème avec l'acceptation de la limite. L'abbé Pierre, qui n'était sans doute pas un grand théologien, mais qui, à coup sûr, était un excellent connaisseur de l'humanité, disait qu'il préférait, plutôt que de parler de péché originel, il préférait parler de fêlure originelle. J'aime bien cette idée. C'est l'image de la faille, de la fêlure. Nous sommes tous des fêlés. Hein, des fêlés d'origine. Hein, ça fait partie de la nature humaine d'être fêlé. L'humain, cette créature auto-réflexive, c'est-à-dire consciente de soi, mais qui a du mal à s'assumer comme créature dans les limites qu'assigne cette condition. C'est là la faille originelle qui fait de l'être humain un être de manque. Dietrich Bonhoeffer, qui lui était un vrai théologien, mais vous voyez, il n'y a pas besoin d'être un vrai théologien pour des choses intéressantes, je trouve intéressant l'expression « fêlure originelle » de l'abbé Pierre, Dietrich Bonhoeffer exprimait la même chose, mais lui de façon paradoxale, en écrivant que pour l'être humain, la limite est au centre. Alors c'est bizarre ça, une limite au centre. D'habitude, on imagine la limite à la périphérie. C'est l'enclos dans lequel nous sommes enfermés et nous aimerions bien aller au-delà parce que l'herbe est toujours meilleure dans le pré d'à côté. Hein. Bonhoeffer dit non, la limite, elle n'est pas à l'extérieur, elle est au cœur même. C'est une autre façon de dire que l'humain est sans arrêt en bagarre avec ses propres limites. Et que finalement, cette histoire de limite, c'est pas une histoire d'abord morale, c'est une histoire spirituelle. C'est comment est-ce que nous allons nous accepter nous-mêmes. C'est ce qui me fait penser, vous voyez à chaque fois le lien, mais je ne le refais pas à chaque fois, que la crise écologique que nous vivons n'est pas d'abord une crise technique ou matérielle, mais une crise spirituelle, une crise du rapport à la limite. Dans les versets de la lettre aux Galates que nous avons lus, que j'ai déjà évoqué, l'apôtre Paul rappelle que notre vocation fondamentale est une vocation à la liberté. Mais immédiatement, il pointe le dévoiement possible de cette liberté au travers d'un prétexte de la chair, c'est-à-dire de la nature humaine. Il s'agit de comprendre que cette liberté, non pas comme une abolition de toute limite, mais au contraire, une liberté de choisir ses limites. Quand cela se produit, quand la liberté est prise comme une abolition de toute limite, alors l'autre, le prochain, mais aussi la terre, la création, deviennent alors des objets de consommation, avec la pathétique illusion que leur dévoration, faute d'éternité, nous apportera un surcroît de vie, à leur dépens, bien sûr. C'est finalement l'image un peu grotesque et malheureusement habituelle, c'est l'image bien connue du vampire. Le vampire, il est dans une quête perpétuelle et inquiète de ce qui pourra prolonger un peu sa vie de mort-vivant. Et Paul, ça c'est vraiment une question que Paul pose en permanence. Qu'est-ce que vous voulez être, des vivants ou des morts-vivants? C'est bien ça l'alternative spirituelle qui est posée. C'est à ce type d'inquiétude Que répond Jésus dans le sermon sur la montagne, dont nous avons lu un extrait tout à l'heure en Matthieu ? Ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez ou de ce que vous boirez. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture ? Qui de vous peut, par ses inquiétudes, prolonger un tant soit peu la durée de sa vie ? Vous avez bien sûr noté, je l'ai déjà fait remarquer, qu'un des thèmes communs de nos trois textes de ce matin, c'est celle du manger. Le manger en lien avec le manque, ou la peur du manque, le manger en lien avec la vie et la mort. Finalement, ces trois textes si différents nous parlent de la même chose. Ils nous parlent de la crise spirituelle qui menace chacun d'entre nous quand nous faisons face à une limite. Ou même seulement dans la perspective qu'il y a une limite. Une limite qui, à chaque fois, de près ou de loin, nous rappelle notre limite ultime, celle de la mort. À Pâques, il y a deux semaines, vous avez célébré la victoire sur la mort. Et cette victoire sur la mort est bien autre chose que la revivification d'un cadavre. Elle est aussi bien autre chose que la fin de la mort annoncée par les technoprophètes du transhumanisme. La victoire de Pâques, c'est celle de celui qui, comme l'écrit Paul aux Philippiens, de celui qui n'a pas considéré comme une proie à saisir d'être l'égal de Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux humains. À Pâques, la victoire sur la mort, c'est la souveraine liberté face à l'ultime limite qu'est la mort. Et c'est, si cette ultime limite qu'est la mort peut être vaincue dans la confiance et dans la liberté, alors à plus forte raison, toutes les autres limites qui sont bien sûr inférieures en gravité et en durée à celle de la mort, peuvent être combattues, affrontées, assumées quelquefois, avec force et espérance. Dans une force et une espérance qui nous permettent de vivre sans inquiétude, en assumant nos limites au travers éventuellement de renoncements choisis dans la liberté. Si la crise écologique que nous vivons est bien aussi une crise spirituelle de notre rapport à la limite, c'est que la cause est à rechercher dans notre inquiétude existentielle qui nous conduit à consommer et à accumuler bien au-delà de ce qui est nécessaire pour notre vie. Ce qui est devant nous, ce n'est ni plus ni moins qu'un choix entre la vie et la mort, un choix de confiance, bref, une conversion spirituelle face à une crise qui est à la fois individuelle et civilisationnelle. Est-ce que nous-mêmes, individuellement, familialement, communautairement, comme paroisse ou comme société, est-ce que nous aurons assez de confiance dans la victoire de Pâques pour reconnaître et accepter nos limites ? Reconnaître et accepter nos limites, mais aussi poser librement nos propres limites, car la liberté dont parle Paul dans la lettre aux Galates, la vraie liberté n'est pas celle qui refuse ou nie toute limite. La vraie liberté, c'est celle qui, libre de l'inquiétude existentielle, sous le regard bienveillant de Dieu, choisit de se réaliser dans le service du prochain, la quête de la justice, la sobriété volontaire, la confiance. Je laisse la parole à Jésus pour terminer. Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas quand même beaucoup plus qu'eux ? Amen.